ቅዳሜ ምሽት ያሉን ቅንብር
Bienvenue à tous. Ce vendredi 18 décembre, on célèbre la Journée internationale des migrants. En effet, c'est en 1990 que les Nations Unies ont institué cette journée pour dissiper les préjugés sur les migrants et sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Si l'actualité concernant les migrants ces derniers mois a tourné autour des tragédies en mer avec des jeunes Africains tentant de rejoindre l'Europe ou encore l'adoption de lois visant à restreindre l'immigration dans beaucoup de pays, cette journée est aussi l'occasion de célébrer les migrants qui contribuent au développement de leurs communautés respectives. Comment éviter une immigration risquée pour des millions d'Africains? Comment garantir le respect des droits des migrants? Quels défis dans les pays d'accueil? Nous discuterons de tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Au Sénégal, alors que le nombre de migrants tentant de se rendre en Europe a connu une hausse drastique cette année et que plusieurs naufrages ont fait des centaines de morts, une association afro-européenne lutte à sa manière contre la migration clandestine. Fondée il y a 27 ans, Village Pilote vient en aide aux enfants des rues. Elle les héberge, les forme à différents métiers et assure leur insertion professionnelle. Vous allez voir dans ce reportage qu'elle les sensibilise même aux risques liés à l'immigration clandestine. C'est un reportage de Alison Lekoto Fernandez.
À une heure de Dakar, la ville de Thiès, où réside Mohamed Kaba depuis 2 mois. Originaire de Guinée, il travaille comme gardien pour une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Un nouveau départ après avoir tenté la traversée vers l'Europe. Il y a 2 ans, Mohamed, qui rêve de devenir rugbyman professionnel, rassemble 500 000 francs CFA, soit près de 1 000 dollars, durement économisés grâce à un travail à l'usine. Mais son rêve se brise en chemin. En Mauritanie, il est agressé et racketté.
Si j'avais investi avec l'argent que j'avais, aujourd'hui je sais très bien que je peux m'en sortir, quoi. J'avais juste envie de quitter et d'aller tenter ma chance. Mais aujourd'hui, je le regrette. Aujourd'hui, si j'avais la nouvelle, une autre chance comme celle-là, mon idée, ce n'est pas de retourner dans cet enfer, quoi.
De retour au Sénégal, Mohamed se tourne vers l'association qui lui était déjà venue en aide alors qu'il était adolescent et à la rue. L'association Village Pilote. Près du lac Rose, elle accueille plus d'une centaine d'enfants des rues, âgés de 3 à 25 ans. Une école de la deuxième chance dont l'objectif est de développer l'autonomie et la responsabilité des jeunes. Pour cela, différentes formations professionnelles leur sont proposées. Maçonnerie, menuiserie. Ici, on apprend aussi la vie en communauté. Ce matin, les responsables de l'association organisent une causerie sur la migration clandestine. Danger de la traversée ou encore conditions de vie des migrants en Europe sont évoqués.
On a accueilli pas mal de jeunes qui étaient en voie de migration, qui nous viennent de la sous-région. Et nous, on leur propose d'abord cette solution alternative de venir d'abord rester avec nous dans ce centre et de pouvoir bénéficier des formations que nous leur délivrerons, qui peuvent être aussi demain une source de revenus.
Retour à Thiès, où Mohamed reçoit la visite de Fatih Diop. Responsable de l'insertion professionnelle à Village Pilote, elle lui rend visite chaque mois pour l'accompagner dans la gestion de son budget, l'ouverture d'un compte en banque, mais aussi pour l'aider dans son insertion sociale, en travaillant par exemple à resserrer les liens familiaux.
On voit le parcours qu'il a eu, depuis quand on l'a, tous les hauts et les bas par lesquels il est passé, qu'il arrive aujourd'hui à être autonome, à pouvoir se prendre en charge tout seul. Là, tout à l'heure, il m'expliquait qu'il a un petit business en Guinée, avec sa mère, où ils vendent des chaussures, ça fait vraiment plaisir. Non seulement il se prend en charge, mais aussi il rapporte à la famille, sa maman a une activité, donc je pense que c'est quelque chose de formidable.
Fondée il y a 27 ans, l'association Village Pilote insère professionnellement chaque année près de 70 jeunes à l'image de Mohamed. Alison Ekogo Fernandez pour VO Afrique, Dakar.
Voilà, merci beaucoup. Et pour le débat, nous avons deux invités. À New York, Bakary Tondja, défenseur des droits des migrants. Et à Abidjan, Hervé Kouakoundri, fondateur de l'ISAT, lutte contre l'immigration illégale, secours, assistance et développement. Vous êtes également auteur du livre « La prison de l'immigration ». Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, Bakary, ces derniers mois, ces dernières années, quand on parle des migrants dans les médias, c'est malheureusement souvent pour évoquer des drames en mer ou parler des lois anti-immigration adoptées par-ci, par-là. Mais cette journée des migrants célébrée chaque année le 18 décembre, c'est aussi une journée pour célébrer la contribution des migrants dans le développement, dans leur communauté d'accueil, dans leur communauté d'origine, n'est-ce pas?
L'immigration est un phénomène social normal qui a toujours existé et qui va continuer à exister. Et les immigrants ont fait leur preuve, leur contribution dans leur pays d'origine, dans les pays d'accueil. Et l'exemple typique est celui des États-Unis, qui est un pays d'immigrants. Ceux qui sont ici aujourd'hui sont venus différents horizons avec la même passion pour réaliser leur rêve. Les rêves qui leur sont les plus chers. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens se focalisent sur les aspects positifs. S'il y a 1000 bonnes choses et qu'il y a un incident quelque part, les médias, les attentions vont se braquer sur cet incident et ils passent dessus sur, en tout cas, toutes les réalisations qui ont été faites. Bon, c'est le cas de l'immigration.
Vous pensez qu'on ne parle pas assez de la contribution des migrants dans le développement des sociétés, qu'on se focalise plus sur, disons, les drames et autres?
Et sur les drames, sur le fait de les présenter comme des personnes nuisibles, des parasites, bon, alors que les immigrants continuent. Et dans le cas des États-Unis, les exemples sont nombreux. Ceux qui ont contribué à faire des inventions extraordinaires telles que Apple et autres, bon, j'en passe, la liste est très longue. Et c'est pourquoi cette journée de célébration doit être une journée pour mettre en lumière les grandes contributions des immigrants et aussi montrer que l'immigration est un phénomène social normal et qu'il faut nécessairement améliorer les conditions de ces personnes-là.
Oui, Bakary, et pour vous, l'année 2020, pour beaucoup de migrants, ça a été quand même une année difficile, surtout avec la pandémie de COVID-19 qui a un peu ralenti leurs activités économiques.
La pandémie est une crise de santé publique sans précédent dans l'histoire qui a affecté tous les aspects de la vie humaine sur le plan économique, social, sur le plan scolaire, c'est-à-dire sur les aspects les plus essentiels de la vie humaine. Si je prends l'exemple de la communauté africaine d'une manière générale, et particulièrement la communauté africaine ici à New York, nous n'avons pas été épargnés. Tout le monde a été touché par ça. Nous avons eu beaucoup de cas de décès, beaucoup de cas d'infection. Et en plus, comme vous le savez, nous avons un pourcentage assez considérable d'Africains ici qui sont dans le secteur de l'informel, qui ont leur propre business. Nous avons également des personnes qui, malheureusement, ne sont pas en situation régulière.
Mais est-ce que les autorités locales, la mairie, la ville de New York, a apporté son appui à cette communauté de migrants, surtout des Africains?
Et absolument. Les Africains qui sont en situation irrégulière, ils ont eu accès et continuent à avoir l'accès à l'assistance publique lorsqu'ils remplissent les conditions. Bon, la situation est beaucoup plus difficile pour ceux qui ne sont pas en situation régulière ou qui sont dans l'informel. Et c'est pourquoi ce que nous avons essayé de faire dans un premier temps, c'est de sauver les vies humaines, sensibiliser les gens, éduquer, alerter à travers des conference calls, à travers des messages WhatsApp, à travers des Zoom. Nous nous sommes, par exemple, appuyés sur sur les imams. Bon, nous avons travaillé avec la mairie pour informer les gens pour se protéger d'abord. Bon, et ensuite, comment accéder à l'assistance qui est disponible, bon, qu'on soit en situation régulière ou irrégulière. Bon, en plus, ce que je voudrais également ajouter, c'est qu'au niveau de la communauté, il y a eu des initiatives positives parce que nous faisons partie du tissu social new-yorkais et américain. Et il y a des initiatives individuelles pour, par exemple, assister les hôpitaux qui faisaient face à cette pandémie. Par exemple, j'ai l'exemple de ma propre nièce, Jana Tanja, qui a un restaurant appelé Berber Food au village, qui a cuisiné pour des hôpitaux. D'accord. Et elle a même cuisiné pour offrir de la nourriture dans un centre communautaire de Islamic Conference Center dans le Bronx.
En tout cas, vous mettez en exergue vraiment la persévérance, l'endurance de la communauté de migrants, qui est d'ailleurs l'objectif de cette célébration de la Journée internationale des migrants. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités à New York, Bakary Tondja, défenseur des droits des migrants, et à Abidjan, Hervé Kouakoundri, fondateur de l'ISAD, lutte contre l'immigration illégale, secours, assistance et développement, auteur également du livre La prison de l'immigration. Alors, avant de poursuivre la discussion avec nos invités, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il dit « Les pays d'accueil ont la charge d'intégrer les réfugiés et de leur accorder des papiers de résidence pour trouver des emplois sur place ou de leur donner des espaces pour travailler. C'est comme cela que les migrants ne seront pas une charge pour les pays d'accueil, pour les humanitaires et le HR. » Hassan Boulalé à Djibouti nous dit que l'Afrique se vide de sa jeunesse qui est en atout en raison de la corruption, du chômage et de la dictature, d'un manque de perspective d'avenir. Seule une volonté politique et une mise en valeur de la jeunesse africaine pourraient stopper net ces morts inutiles en mer ou dans le désert de mes frères africains. Et puis à Abidjan, Eric Gauze nous dit que le phénomène de la migration irrégulière s'accentue parce que nos dirigeants n'ont aucune stratégie pour développer leur pays. Alors, pour cette seconde partie, je démarre justement avec vous, Hervé, vous qui êtes à Abidjan. Que pensez-vous de ces réactions de téléspectateurs qui globalement mettent un peu en cause la gestion de nos pays pour expliquer ce phénomène de l'immigration irrégulière très risqué qu'on a constaté récemment.
Le phénomène migratoire irrégulier, moi je veux endosser cette responsabilité à plusieurs personnalités. Et la première personne que moi je veux endosser la responsabilité ici, c'est les parents et à la jeunesse. À faute aussi de nos élites, nos dirigeants africains. Regardez, suivez mon regard un peu. Nos autorités africaines, ils ont comme l'habitude de se soigner en Europe. Ils sont malades. Jamais entendu parler que tel président africain, à part le président marocain qui s'est fait opérer tout dernièrement au Maroc, et ça a été un succès. Et les autres présidents, où est-ce qu'ils se soignent? Tous vont se soigner en Europe. Et en dehors de tout ça, prenons les enfants des élites, les enfants des dirigeants africains. La plupart, c'est en hexagone qu'ils vont faire des études. Et je dirais même, déjà, ils montrent la voie à la jeunesse que tout se fait en Europe. Je pense que là, ils sont en train de même encourager la jeunesse à quitter leur propre territoire. Et d'une part, je pense aussi, quand cette jeunesse sur le territoire africain, ça arrange aussi les élites parce que là, personne ne va rester pour contredire nos dirigeants africains. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup sont en train de s'engager dans les questions de rester à vie. Pouvoir aussi, c'est des problèmes. Voilà. Donc, comment on peut aider cette jeunesse à se prendre en charge sur le continent africain? Donc, leur part de responsabilité. Et encore les parents envieux, les parents qui souhaiteraient que leurs enfants, compte tenu de la situation, la pauvreté qui mine la famille, qu'ils quittent la famille et qu'ils partent tout et tout en Europe, risquent au péril de leur vie. Les parents sont responsables. Je prends le cas du Sénégal. Le jeune homme, Doudou, a perdu la vie tout dernièrement sur la mer Méditerranée, dont son père a c'est près de 200 combien de mille pour faire partir son fils en Europe à aller jouer au football.
Et c'était beaucoup de débats au Sénégal, effectivement.
Les parents qui encouragent. Voilà.
Mais en même temps, Hervé Bakary disait tantôt que beaucoup, en fait, disent que le phénomène de l'immigration est un phénomène naturel, que l'être humain naturellement a tendance à vouloir partir ailleurs, découvrir d'autres cieux. Mais en même temps, comment est-ce que vous réconciliez ça avec le durcissement des lois dans certains pays qui ne veulent pas de l'immigration, même régulière? Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui pousse les gens à chercher d'autres voies irrégulières?
Je dirais plutôt que la migration elle-même n'est pas une mauvaise chose, comme notre camarade vient de le dire tout à l'heure. Et c'est un phénomène, c'est une situation naturelle. Mais n'oublions pas, quand ça devient illégal, ça enfreint à la loi de pays. Même s'il y a des lois qui ont été votées, des lois qui ont été rédigées en bonne et due forme avant d'atterrir sur un territoire, n'oublions pas cela. Moi, je ne suis pas dit que le phénomène migratoire irrégulier, aujourd'hui, et nous devons considérer comme un phénomène naturel. Non, je suis désolé. Désolé, on ne peut pas considérer comme un phénomène naturel. La migration, elle, certes, due au développement, est un phénomène naturel, comme on peut le dire, mais quand ça devient régulier, quand ça devient illégal, alors là,
c'est un risque. Donc, surtout quand ça devient risqué, c'est un vrai problème. Et
en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce que le frère Hervé vient de dire, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une réglementation et les immigrants sont tenus de respecter ces lois pour ne pas tomber dans l'illégalité. Bon, je crois que quand on se réfère à la migration comme un phénomène social, normal et naturel, c'est en quelque sorte pour dire que c'est quelque chose qui a existé, qui va continuer à exister. Maintenant, les conditions de migration, les facilités qui vont être accordées bon, naturellement, vont être changeants, ne sont pas statiques. On sait que les choses évoluent. Il y avait au moment quand, par exemple, la France avait besoin des immigrants pour le travail, sur le plan professionnel, et ils avaient la capacité d'absorber ces Africains, ils étaient en tout cas les bienvenus. Il n'y a pas de situation permanente. Bon, donc la notion de naturel et de normal se réfère tout simplement à ce phénomène en tant que quelque chose qui a toujours existé, qui va continuer à exister. Maintenant, les formes les formes ne vont pas rester les mêmes ainsi que.
D'accord. Parlant de formes, justement, Hervé, vous pensez que peut-être que ces pays devraient faciliter la migration régulière pour limiter ces dangers, ou la responsabilité revient plutôt au gouvernement africain de trouver du travail aux jeunes?
Ben, je l'ai dit tout à l'heure, les présidents africains doivent jouer un rôle prépondérant cette histoire. Parce que j'ai toujours pris l'exemple sur la Chine. Quand on dit que oui, l'Afrique connaît pas mal de problèmes, aucun pays dans le monde entier, pays n'a eu, je veux dire, aucun pays, tous les pays du monde entier ont eu tous des problèmes. Je prends le cas de la Chine. La Chine a connu des guerres internes comme externes. Aujourd'hui, la Chine a éduqué sa population. Il va falloir que les présidents africains éduquent leur jeunesse. Il va falloir qu'on change le système éducatif. Il ne faudrait pas qu'on reste là en train de copier-coller le système français et on essaie tout le temps de copier sans chercher à adapter nos réalités actuelles vis-à-vis de nos éducations. Là, ça crée déjà un trou. Ça pousse aujourd'hui cette jeunesse-là de passer par cet aspect, disons, ce phénomène migratoire irrégulier ou de coûts. Donc, la responsabilité de nos dirigeants, c'est qu'ils doivent adapter nos problèmes actuels à la vie africaine actuelle pour qu'on ait des solutions africaines face à ce phénomène-là. Maintenant, disons que jeunes, la jeunesse africaine elle-même, à un moment donné, s'assoit pour réfléchir, changer de mentalité. Pourquoi? Parce que quand on quitte un territoire en flux et on veut coûte que coûte aller de l'autre côté, mourir au risque de notre vie, mais c'est une honte, comme le dit hier Thomas Sankara, quelqu'un qui ne fait pas mieux que son père, c'est honte à la famille. Donc la jeunesse africaine comprend l'avenir de demain, c'est eux. Si aujourd'hui nos dirigeants ne veulent pas travailler comme se doit pour leur donner la chance de réussir en Afrique, moi je pense qu'à nous de prendre le destin, notre destin en main. Parce qu'un président, c'est qui? C'est quelqu'un qui a été élu par le peuple. Et si jamais il refuse de faire le travail que le peuple attend de lui, le peuple a ses responsabilités de le faire quitter au pouvoir et mettre celui qui peut vraiment faire le travail de la jeunesse africaine. Mais nous fuyons le problème. Pendant que nous fuyons le problème, on déplace le problème. On n'aura jamais la solution à ce problème-là. Donc le mieux serait de rester sur place et trouver la solution et combattre ce qui est injuste et combattre ce qui ne nous arrange pas. La solution n'est pas de fuir le continent.
Alors, Bakary, l'un de nos téléspectateurs aussi parlait des pays d'accueil qui doivent faciliter en fait le travail pour ces migrants, pour justement éviter à ces migrants d'être une charge pour ces pays d'accueil. Mais en même temps, on voit un sentiment anti-migrant qui se développe dans beaucoup de pays occidentaux avec la montée surtout de l'extrême droite. Comment est-ce que vous conciliez tout cela?
C'est une situation très, très, très complexe. Le fait d'être migrant ne supprime pas notre qualité d'homme, c'est-à-dire d'homme dans le sens de personne humaine. Mmh. Nous avons des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Donc le fait de se retrouver dans un autre pays, même en cas de situation irrégulière, bon, ces personnes ont le droit d'être traitées avec respect et dignité. Bon, et également, si nous prenons le cas des États-Unis, et bon, là où enfin, nous vivons. Bon, nous avons plus de 11 millions de personnes qui sont actuellement, qui n'ont pas de papier et qui travaillent ici aux États-Unis et qui payent leurs taxes. Ça veut dire qu'ils contribuent au développement de ce pays. Et vraiment, quand on considère, par exemple, la durée, en fait, le temps qu'ils ont passé ici aux États-Unis, bon, je pense que c'est quelque chose qui doit être, qui mérite d'être considéré et évalué, essayer de trouver une solution humaine par rapport à ça. Bon, maintenant, le sentiment anti-immigrant, on le comprend également. Quand il y avait du boulot pour tout le monde, il n'y avait pas de problème. Si maintenant, les immigrants qui viennent, ils se retrouvent en situation de compétition avec les nationaux, bon, naturellement, et ça va causer, en tout cas, des frictions, de l'insatisfaction, bon, par rapport aux personnes qui se sentent lésées par la présence de ces immigrants.
D'accord. Et Hervé, quels sont les défis, peut-être aussi les opportunités pour 2021 pour cette jeunesse? Malheureusement, on risque de voir encore des jeunes tenter l'aventure dangereuse. Quel est votre message, peut-être rapidement?
Bien, mon dernier message ce soir, je dirais plutôt que nos élites africaines s'intéressent plus à cette politique migratoire. Il ne faudrait pas qu'ils restent et assistent à la jeunesse s'aventurier sur le chemin de la mort et dans des prisons inutiles. Donc, à ce fait, je dis à ma jeunesse de rester chez soi pour construire un avenir meilleur, parce que nous connaissons plus ou moins certaines personnes qui sont restés en Afrique, qui n'ont jamais quitté leur pays, qui n'ont jamais quitté leur continent, mais aujourd'hui, ils sont quand même cités dans la société comme des exemples. Je souhaiterais qu'on ne soit pas découragé, mais plutôt nous devons changer la manière de voir les choses en face. C'est que hier, ils nous ont montré comment il faut écrire A plus B ou il faut écrire 1 plus 1, tout ça, puis mais. Aujourd'hui, avec la situation dans laquelle nous vivons, je pense que nous tous, nous devons changer la manière. Et la seule manière que j'interpelle la jeunesse africaine, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat peut aller vraiment dans le sens de pouvoir aider cette jeunesse-là à se construire un avenir meilleur. Mais en même temps, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'assistance à nos politiques. Donc, plus ou moins, la population est... les élites africaines doivent vraiment se mettre en conformité et payer une nouvelle vie et créer une nouvelle politique pour éviter tout ce que nous assistons aujourd'hui et aujourd'hui dans la jeunesse africaine. Parce que si jamais il ne va pas en Europe, il ne sera rien le monde. Donc on a encore la chance, c'est... et qu'ensemble, nous puissions vraiment regarder dans une seule direction. C'est pour ça que j'interpelle aussi la société civile africaine. Elle a sa part de responsabilité, oui, face à ce phénomène. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'ONG LISAT se limite pas seulement, oui, à la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, nous sommes en train de conquérir toute l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une plateforme entre nos pays africains, parce que c'est un problème transnational, et il va falloir que les sociétés africaines, les sociétés civiles africaines se mettent ensemble pour apporter aussi leur contribution, parce que depuis qu'on parle du phénomène migratoire, on n'assiste seulement que des organisations internationales qui viennent de l'Occident, qui viennent encore nous donner des solutions. Or, les solutions qui viennent, ce sont des solutions typiquement africaines, européennes. Nous avons besoin de solutions aussi africaines pour résoudre ce problème-là.
Voilà, en tout cas, c'est une discussion qui va se poursuivre. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à vous qui nous avez suivis. Je remercie mes invités. Une émission que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de VOA Afrique et également sur notre site internet, sans oublier nos télépartenaires sur le continent.